Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Nathalie Barz à la présentation, bonsoir, il est 19h30 en temps universel, bienvenue dans cette édition du 15 juin 2022, voici les titres. L'armée française a annoncé avoir capturé un chef djihadiste, Oumeya Ould El-Bakaï, près de la frontière entre le Niger et le Mali. En République démocratique du Congo, des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Goma pour exprimer leur soutien à l'armée congolaise face aux groupes armés. Kigali affirme ne pas être découragé par l'annulation d'un vol censé expulser des migrants illégaux de Grande-Bretagne vers le Rwanda. Guerre en Ukraine, Kiev réaffirme son refus de lâcher le Donbass aux forces russes. Les combats continuent à Severodonetsk. Après le journal, ce sera la Minute Écho et les sports. Au Sénégal, les autorités ont interdit une manifestation prévue vendredi à Dakar dans un climat de tension préélectorale. L'opposition a prévenu préalablement qu'elle passerait outre à une éventuelle interdiction. Un arrêté du préfet de Dakar invoque les menaces de troubles à l'ordre public. Il parle aussi de violation d'un article du code électoral qui proscrit toute propagande déguisée dans les 30 jours précédant l'ouverture de la campagne électorale qui est prévue le 10 juillet en vue des législatives du 31 juillet. L'armée française affirme avoir capturé un chef du groupe État islamique au Grand Sahara, Oumeya Ould El-Bakaï, a été arrêté au cours d'une opération de la force Barkhane près de la frontière entre le Niger et le Mali dans la nuit du 11 au 12 juin. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
Dans un communiqué, l'état-major des armées françaises précise qu'Oumeya Ould El-Bakaï dirigeait les opérations du groupe djihadiste dans la région du Goma au Mali, ainsi que dans le nord du Burkina Faso. Il visait directement les axes de circulation empruntés par la force Barkhane pour conduire sa réarticulation hors du Mali, a expliqué l'armée française. Il a organisé plusieurs attaques contre différentes positions militaires au Mali, dont celle de Gao. Il est jugé responsable d'un grand nombre d'exactions contre les populations civiles maliennes et burkinabées. Selon l'état-major français, la force Barkhane va conserver le détenu quelques jours avant de le transférer aux autorités maliennes. La mise hors d'état de nuit d'Oumeya Ould El-Bakaï constitue un nouveau succès pour la force Barkhane qui poursuit le combat contre les groupes terroristes tout en se réarticulant hors du Mali, a dit l'état-major. L'armée française doit achever son retrait du Mali d'ici à la fin de l'année et vient de quitter sa base de Ménaka.
Et selon des sources françaises, des mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner sont arrivés aujourd'hui à Ménaka sur la base militaire rétrocédée lundi à l'armée malienne par les Français. Une source locale a affirmé avoir constaté la présence d'une dizaine de Russes sur le camp militaire. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Goma pour exprimer leur soutien à l'armée congolaise, alors que la tension monte entre la RDC et le Rwanda autour de la rébellion du M23. Le point avec Nani Talani.
Les manifestants, surtout des jeunes, se sont dirigés vers la petite barrière et la grande barrière qui séparent la RDC du Rwanda. Nous manifestons contre l'incursion du M23. Nous demandons au gouvernement de nous doter de tenues militaires et d'armes pour aller nous battre contre l'armée rwandaise, a indiqué l'un des manifestants. Ils ont été dispersés par la police anti-émeute alors qu'ils tentaient de forcer le passage vers le Rwanda. Mardi soir, des centaines de personnes ont encore manifesté à Kinshasa pour demander la rupture des relations avec le Rwanda, accusé de soutenir le M23, ce que dément Kigali. Le gouvernement de Kinshasa, dans un communiqué, condamne la participation rwandaise dans le soutien, le financement et l'armement de cette rébellion, promettant de défendre chaque centimètre de son territoire. Le M23 a repris les armes fin 2021 en reprochant à Kinshasa de ne pas avoir respecté un accord pour la démobilisation et la réinsertion de ses combattants.
Le gouvernement rwandais a déclaré ne pas être découragé par l'annulation d'un vol censé expulser hier des migrants illégaux du Royaume-Uni vers le Rwanda. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Nous ne sommes pas découragés par ces développements. Le Rwanda reste pleinement engagé à œuvrer pour que ce partenariat fonctionne, a déclaré la porte-parole du gouvernement, Yolanda Makolo. Un premier vol devait décoller hier de Grande-Bretagne à destination du Rwanda, mais il a été annulé suite à une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le nombre de personnes devant être expulsées avait fondu à 7 après des recours individuels au Royaume-Uni contre 130 initialement prévus. À travers ce projet, le Royaume-Uni veut envoyer au Rwanda des migrants arrivés clandestinement sur son territoire. Cette politique est qualifiée d'immorale par des responsables de l'Église anglicane et critiquée par le HCR. La Cour européenne des droits de l'homme est née de la Convention européenne des droits de l'homme que la Grande-Bretagne a contribué à instaurer en 1950. Elle n'a aucun lien avec l'Union européenne que les Britanniques ont quittée en janvier 2020.
En Somalie, le président Hassan Cheikh Mohamoud a nommé Hamza Abdi Bar au poste de Premier ministre un mois après son élection à la tête de ce pays de la Corne de l'Afrique, a annoncé la présidence dans un communiqué. Ce député de 48 ans de l'État du Jubaland dans le sud devient le 21e Premier ministre de la Somalie, succédant à Mohamed Hussein Roble qui occupait le poste depuis septembre 2020. La Cour pénale internationale a annoncé ce mercredi le décès de Mahmoud Al-Werfali, un commandant militaire libyen soupçonné de crimes de guerre et avoir mis fin aux procédures à son encontre. La décision de la Cour qui siège à La Haye intervient plus d'un an après des informations selon lesquelles Werfali, un lieutenant du maréchal Khalifa Haftar, avait été abattu par des hommes armés non identifiés. L'Égypte, l'Union européenne et Israël ont signé un protocole d'accord ce mercredi pour approvisionner l'Europe en gaz naturel lors d'une visite au Caire d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Cette visite intervient alors que les pays européens cherchent à diversifier leurs approvisionnements énergétiques après la décision de la Russie de couper ses livraisons de gaz à l'Europe.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Guerre en Ukraine, Kiev réaffirme son refus de lâcher le Donbass aux forces russes. Les combats continuent dans la ville de Severodonetsk. Mouamadou Oumfa nous en dit plus.
La défense de la région du Donbass est essentielle pour donner une indication sur celui qui va dominer dans les semaines à venir, a estimé le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky. La Russie a appelé les Ukrainiens à cesser, et je cite, leur résistance absurde à Severodonetsk et proposer un couloir humanitaire pour en évacuer les civils. Mais Kiev a exhorté ses combattants à tenir le coup. Selon des témoins, les routes entre Kramatorsk et Lysychansk, ville jumelle de Severodonetsk, sont utilisées pour acheminer des armes, notamment des lance-roquettes et des canons d'artillerie. L'armée russe a affirmé avoir détruit un entrepôt d'armes livré par les pays de l'OTAN, alors que le président Zelensky a appelé les Occidentaux à accélérer leur livraison. Le groupe de contact pour l'Ukraine s'est réuni à Bruxelles pour discuter d'une éventuelle accélération de ces livraisons d'armes en marge d'une réunion ministérielle de l'OTAN. Le Royaume-Uni va livrer de façon imminente des systèmes de lance-roquettes multiples à l'Ukraine, a indiqué pour sa part le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace.
Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à inclure les femmes dans les processus de paix. Dans tous ces conflits, nous avons des hommes au pouvoir et des femmes exclues, a-t-il déclaré, évoquant l'Ukraine, le Mali, le Soudan et l'Afghanistan, lors d'une session organisée par la chef de la diplomatie albanaise, Olta Gzaka. Le suprémaciste blanc qui a tué 10 Afro-Américains dans un supermarché de Buffalo aux États-Unis le mois dernier a été inculpé de crimes racistes par la justice fédérale, a annoncé le ministre de la Justice lors d'un déplacement dans cette ville du nord du pays. Peyton Gendron, 18 ans, faisait déjà l'objet de poursuites devant la justice de l'État de New York pour terrorisme intérieur et assassinat. Il risque désormais un procès distinct devant un tribunal fédéral et encourt la peine capitale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans La Minute Éco, présentée par Nani Talani.
La Tanzanie veut instaurer une taxe de 2% sur les revenus réalisés par les géants du numérique sur son territoire. Le ministère des Finances a officialisé ce projet de taxe mardi lors de la présentation du budget annuel. Le Parlement doit l'approuver avant son entrée en vigueur prévue début juillet. Le Nigeria envisage de faire appel après avoir perdu un procès à Londres contre la banque américaine JP Morgan. Abuja réclame 1,7 milliard de dollars de dommages et intérêts à la dite banque pour un accord pétrolier contesté en 2011 impliquant l'acquisition d'une licence de prospection d'un bloc pétrolier par Shell et Eni. Le Nigeria accuse JP Morgan de négligence grave en transférant des fonds versés par Shell et Eni sur un compte séquestre à une société contrôlée par l'ancien ministre nigérian du pétrole, Dan Etete, au lieu de le verser sur un compte gouvernemental. Pour terminer, la demande mondiale de pétrole devrait augmenter de plus de 2% pour atteindre un record de 101,6 millions de barils par jour en 2023, annonce l'Agence internationale de l'énergie, bien que la flambée des prix du brut et l'affaiblissement des prévisions économiques assombrissent les perspectives d'avenir. L'approvisionnement est limité en raison des sanctions imposées à la Russie.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
On commence par du football avec le Mondial 2022. La Tunisie rêve des huitièmes de finale.
Oui, les Aigles de Carthage qui ont remporté hier la Coupe Kirin en battant le Japon 3-0 à Osaka peuvent atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, estime le sélectionneur Jalel Kadri. Notre but était d'atteindre la Coupe du Monde. Maintenant que nous y sommes, nous voulons atteindre la phase d'élimination directe pour la première fois, a déclaré le sélectionneur de 50 ans. La Tunisie a participé à 5 Coupes du Monde sans jamais parvenir à dépasser les phases de groupe. Elle figure dans le groupe D avec la France, le Danemark et l'Australie en phase de poule de cette Coupe du Monde prévue du 21 novembre au 18 décembre prochain.
Justement, le Costa Rica est le dernier pays qualifié pour ce mondial.
Les Costariciens ont décroché le dernier des 32 billets pour le Mondial 2022 au Qatar en battant la Nouvelle-Zélande 1-0. Dès la troisième minute, l'ancien attaquant d'Arsenal, Joel Campbell, a converti la seule occasion des Centra-Américains dans la première période dans l'ère climatisée du stade Ahmad Ben Ali à Al Rayyan de Doha, qui accueillera 7 rencontres de la première Coupe du Monde dans un pays arabe. Pour leur 6e Coupe du Monde et la 3e consécutive, les Costariciens rejoignent l'Espagne, l'Allemagne et le Japon dans le groupe E.
L'Angleterre sombre face à la Hongrie en Ligue des Nations.
Les Three Lions ont subi une défaite historique contre la Hongrie 4-0 à Wolverhampton. Lors de la 4e journée de la compétition, il faut remonter à un 5-1 encaissé contre l'Écosse en 1928 pour retrouver trace d'une défaite à domicile aussi large pour l'Angleterre. Ils se retrouvent bon dernier de leur groupe avec 2 points en 4 matchs. Derrière la Hongrie 7 points, l'Allemagne 6 points et l'Italie 5 points. Après 3 nuls en Ligue des Nations et un flot de critiques, la Mannschaft a dominé l'Italie 5-2 à Mönchengladbach avec un doublé de Timo Werner. Selon le statisticien Opta, c'est la première fois depuis 1957 que l'Italie encaisse 5 buts en match international.
Et pour terminer, Platini et Blatter devant la justice en Suisse.
Oui, le parquet suisse demande 1 an et 8 mois de prison avec sursis contre Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter. Il les accuse d'avoir escroqué l'instance du football en obtenant pour le Français un paiement injustifié. Le procureur Thomas Hildebrand a balayé la thèse d'un contrat oral conclu entre les deux hommes pour un travail de conseiller effectué par Platini pour la FIFA entre 1998 et 2002. Le tribunal pénal fédéral suisse rendra sa décision le 8 juillet.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
We'll be right back.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Tension politique au Sénégal à l'approche des législatives du 31 juillet. La principale coalition de l'opposition, Yewi Askanoui, dont la liste a été partiellement rejetée, maintient son appel à manifester vendredi. Le président Macky Sall a dit que les élections se tiendront à la date prévue, malgré les menaces de l'opposition de perturber le scrutin si ses leaders sont exclus. Une situation qui inquiète la société civile. Abdourahmane Dia a joint à Dakar Aliou Ntine, président du centre de réflexion Africa Jom.
On est vraiment très très préoccupé par rapport aux logiques de surenchère, d'escalade et de confrontation politique qui se manifestent avec les interdictions de manifestation. Et puis, bon, dans les deux camps, les gens commencent à se défier du président disant qu'il va y avoir les élections. Et la coalition d'opposition Yemi Askari disant effectivement qu'il n'y aura pas d'élections. Donc, défiant aussi les interdictions de manifestation, ce qui fait que ce sont quand même des logiques qui risquent de compromettre dangereusement l'organisation d'élections législatives transparentes, apaisées. D'installer un cycle de violence dont il est difficile de mesurer les conséquences sur la paix, la sécurité et la stabilité du pays.
Alors, à Aliou Ntine, les périodes préélectorales sont souvent tendues au Sénégal, même si les élections finissent par se dérouler plus ou moins normalement dans le calme, généralement. Y a-t-il des raisons de s'inquiéter pour ces législatives du 31 juillet? Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci pour vous?
Écoutez, ici, c'est même un contentieux préélectoral qui a été mal guidé par le Conseil constitutionnel et qui a abouti à une impasse politique. Ça me fait penser un peu aux législatives du Mali, où nous avons assisté à l'effondrement à la fois de la Cour constitutionnelle malienne et puis à l'effondrement aussi de l'Assemblée nationale. Donc, nous, ce que nous préconisons face à une impasse politique, c'est franchement, d'installer un dialogue politique pour régler cette question de façon politique, de façon démocratique et de façon pacifique.
Faut-il tenir ces élections à date échue ou faut-il reporter pour permettre à tout le monde d'y participer?
En fait, pour nous estimons que c'est par le dialogue politique qu'on doit régler la question du report et de l'organisation des élections. C'est pas à nous vraiment de dire comment il faut faire, c'est par le dialogue avec les acteurs politiques qu'on peut trouver les solutions les plus appropriées pour avoir des élections transparentes, démocratiques et vraiment pacifiques.
Et vous en appelez aux guides religieux qui sont considérés comme les régulateurs sociaux?
On en appelle
sociaux.
Un aux guides religieux parce que tout de même c'est un mécanisme de régulation efficace, nous l'avons vu lors des événements de mars dernier. Nous en appelons aussi à une administration qui doit faire de la neutralité un puissant moyen de régulation de la paix sociale.
Aliou Ntine d'Africa Jom était joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Mali, la hausse des prix du carburant a entraîné l'augmentation de ceux des transports en commun. Les minibus de la Sotrama, taxis, mototaxis et autres moyens de transport ont revu à la hausse leurs tarifs, ce qui n'a pas manqué de contrarier les usagers déjà affectés par l'augmentation générale des prix. Le point avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Il est 10h à la place de Sotrama, en face du Centre international de conférence de Bamako. Une dizaine de minibus font la queue. Chacun attend son tour pour prendre la direction d'un des quartiers de la commune 4 de Bamako. Assis à quelques mètres de ces chaudes discussions entre apprentis et passagers, Souleymane Camara, chauffeur, explique les raisons de cette augmentation.
Bon, si tu vas le transport est augmenté, ça dépend de la gasoil. Gasoil est augmenté jusqu'à 260 francs. Jusqu'à maintenant, on a 300 à 800 francs de prix. Donc, nous avons augmenté, nous avons donné des prix de 25 francs. Donc, ça ne range pas. Mais comment il faut faire? Jamana il est dans les difficultés. Donc on est obligé de travailler avec ces prix-là. Non, ça ne range pas du tout.
Coincé au fond de ces sous-tramas qui chargent plus que la moyenne requise, Djene Badiara transpire à grosses gouttes. Elle part pour Sébenikoro, mais tient à dire ce qu'elle pense de cette augmentation subite. Nous souffrons. Tout ce que nous gagnons part dans le transport. On ne s'entend pas avec les apprentis à cause des monnaies. Nous n'en pouvons plus. Il faut que les autorités fassent quelque chose pour diminuer le transport. Devenue une alternative pour les usagers, les mototaxis ont aussi revu à la hausse leurs tarifs. Abdoulaye Sangaré, qui vient de déposer sa première cliente de la journée, s'explique.
La moto ne m'appartient pas. Je dois donner la recette journalière et avoir un peu d'argent pour moi. Si je n'augmente pas le transport, je ne pourrai pas m'en sortir.
Depuis le 8 juin, les prix de l'essence et du gasoil ont augmenté. Et lorsque les prix du carburant augmentent, c'est presque répercuté aussitôt sur les prix des denrées de première nécessité, alors que le Malien se prépare pour la grande fête de Tabaski. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Le gouvernement britannique s'est montré résolu ce mercredi à expulser des migrants illégaux vers le Rwanda, malgré la décision de la Cour européenne des droits de l'homme ayant bloqué les expulsions. Et Kigali affirme être toujours engagé dans son accord avec Londres, qui finance l'initiative à hauteur de 120 millions de livres. Le point avec Eric Manirakiza.
La détermination du Premier ministre conservateur Boris Johnson à dissuader les arrivées clandestines au Royaume-Uni en envoyant des migrants au Rwanda est vertement critiquée, notamment par le HCR. Matthew Saltmash est un porte-parole du HCR joint à Genève.
Qu'une fraction des réfugiés dans le monde et dispose des ressources nécessaires pour gérer les demandes d'asile de manière humaine, équitable et efficace. C'est vrai que le Rwanda a offert généreusement un havre de paix au fil du temps pour ceux qui fuient les conflits et les persécutions, mais là-bas, une majorité d'entre eux, ils vivent dans des camps avec un accès limité aux opportunités économiques. Donc, c'est pour nous, c'est les pays développés qui doivent soutenir les pays avec moins de ressources, pas l'inverse.
À Kigali, la déception de certains Rwandais est palpable. Emmanuel Hakizimana est commerçant à Kigali.
Le fait que ces migrants ne soient pas venus est une perte pour le pays et le grand public, car leurs moyens de subsistance auraient profité et nous aurions travaillé ensemble et maintenant il est évident que c'est une perte.
Un sentiment partagé par Eric Mandi, barbier dans la capitale rwandaise.
Nous avons aidé d'autres personnes auparavant. J'ai entendu le ministre des Affaires étrangères dire qu'une partie de l'argent sera donnée au Rwanda parce qu'il a accueilli ses réfugiés et qu'ils ont des compétences qu'ils peuvent partager avec les Rwandais. C'était une opportunité pour nous.
Le coup porté à ce projet à la dernière minute par la justice européenne est désormais sous le feu des critiques dans la capitale rwandaise. Zéphanie Ngabonziza est étudiant à Kigali.
Si une telle chose avait été prévue et qu'elle a échoué, alors les gens ne croient plus en ce pays. Tout le monde sait que le Rwanda est un pays pacifique. Avoir une telle nouvelle qu'ils ont annulée à la dernière minute nous donne une mauvaise image. Maintenant, nous sommes perdus parce que le service que nous leur aurions apporté ne leur serait pas donné parce qu'ils ne sont pas venus.
À Londres, le porte-parole de Boris Johnson a indiqué que le gouvernement comptait, avant de décider des suites à donner, étudie attentivement ce jugement de la juridiction du Conseil de l'Europe, qui a notamment estimé que l'expulsion d'un Irakien devait être repoussée jusqu'à ce que la justice britannique ait examiné la légalité du dispositif, ce qui est prévu en juillet.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Congrès américain revisite l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, l'un des événements les plus marquants de l'histoire politique récente des États-Unis. Les audiences télévisées qui ont débuté la semaine dernière ont pour but de déterminer la responsabilité ou non de l'ancien président Donald Trump dans les violences qui ont eu lieu le jour de la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle de 2020. Avec nos analystes, nous évoquerons l'importance de ces audiences et les leçons à tirer de l'assaut contre le Capitole. Ce sera ce jeudi à 19h universel sur VOAfrique.com.
Joe Biden doit se rendre au Moyen-Orient le mois prochain pour la première fois en tant que président des États-Unis. Il a prévu des escales en Israël, en Cisjordanie et en Arabie Saoudite. Ce sera la première fois qu'un président américain se rendra directement d'Israël vers un État arabe qui ne reconnaît pas l'État hébreu. Un reportage de Patsy Widakuswara, correspondante de La Voix de l'Amérique à la Maison Blanche, récit de Michel Joseph.
Trois importants voyages à l'étranger figurent au programme du président Biden. D'abord, le sommet du G7 en Allemagne et une réunion de l'OTAN en Espagne à la fin de ce mois, puis une visite à la mi-juillet en Israël, en Cisjordanie et en Arabie Saoudite, où il va participer à une réunion du Conseil de coopération du Golfe.
C'est la raison pour laquelle j'y vais. Et cela a à voir avec la sécurité nationale pour les Israéliens. J'ai un programme. De toute façon, il s'agit de questions bien plus vastes que celles liées à l'énergie.
Très étroit sous l'administration Trump, les liens entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite se sont refroidis sous Biden, qui avait qualifié le royaume saoudien de paria alors qu'il était en campagne électorale. Ces relations se sont tendues davantage après la mort du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, un meurtre qui, selon les renseignements américains, avait été approuvé par le prince héritier Mohammed bin Salman. Aujourd'hui, avec la flambée des prix du pétrole et du gaz qui alimente l'inflation, Joe Biden veut discuter avec les Saoudiens, premier producteur de pétrole, jouant un très grand rôle sur les marchés mondiaux de l'énergie. John Alterman, directeur du programme Moyen-Orient au Centre d'études stratégiques et internationales.
Il s'agit en partie du Yémen et il s'agit en partie de l'Iran. Il s'agit en partie de la normalisation avec Israël, en partie de la production d'énergie. Il s'agit en partie de l'énergie verte, de la transition énergétique et du rôle de l'Arabie Saoudite dans ce domaine. Et il s'agit en partie de développement économique, de partenariat économique, et il s'agit en partie du rôle croissant des femmes en Arabie Saoudite.
Biden va s'envoler directement d'Israël, l'allié le plus proche de l'Amérique au Moyen-Orient, à Jeddah en Arabie Saoudite, une première pour un président américain après le vol historique de Trump en 2017 de Riyad à Tel Aviv. Israël n'a pas de lien officiel avec l'Arabie Saoudite. Washington s'est engagé dans une diplomatie discrète pour élargir les accords d'Abraham, un accord de l'administration Trump pour que les États arabes normalisent leurs relations avec Israël. Brian Katoulis, chercheur principal à l'Institut du Moyen-Orient.
Je vais tempérer les attentes de percée majeure à ce stade, simplement car ce que j'entends des Saoudiens, ce sont de profondes réserves quant à l'absence de progrès sur le front palestinien et l'instabilité permanente dans des endroits comme Jérusalem.
Pour les Saoudiens, la normalisation avec Israël doit nécessiter des progrès majeurs dans les pourparlers de paix israélo-palestinien. Mais avec peu de progrès à signaler et des affrontements continus, y compris la récente prise de bec suite aux allégations selon lesquelles les forces israéliennes ont tué une journaliste palestino-américaine, les perspectives de paix paraissent encore lointaines.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Michel Joseph, à la présentation Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette édition sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.